France Culture.
Les midis de culture. Marie Sorbier.
Une aurore et tout dérape. Le monde se divise alors en deux, ceux qui l'ont vu et les autres. Dans le premier roman auto-publié de Blake Crouch, mon invité aujourd'hui, l'aurore est maléfique, elle éblouit au point de priver les humains de toute empathie envers leurs semblables. Run est l'histoire d'une fuite en avant. Nous voilà, lecteurs, embarqués aux côtés d'une famille qui fera tout pour échapper aux milliers de tueurs sanguinaires qui se lancent à leur trousse. Un thriller sur la route, donc, mais aussi une plongée dans l'inconscient de l'Amérique où la violence et la mémoire sont interrogées. Les Midis de Culture ont pris place au cœur du Festival international de science-fiction à Nantes. Bienvenue, Blake Crouch, et bienvenue au public des Utopiales. Bonjour, Blake Crouch. Et bonjour à votre voix française, Bernard Reeves, qui va assurer la traduction de cet entretien. Nous vous recevons aujourd'hui en direct de Nantes, car votre premier roman, auto-édité en 2011, paraît pour la première fois en français, dans une traduction de Patrick Imbert aux éditions Gaille Master. Vous avez publié à ce jour 12 romans, traduits dans plus de 30 pays, et pour certains adaptés pour la télévision. Je pense notamment à votre best-seller Dark Matter. Qu'est-ce que ça provoque chez vous que vos lecteurs français découvrent a posteriori ce premier roman? Vous le qualifiez vous-même de livre des premières fois.
It's really special to have Run finally be available to
Run, qui sera disponible pour les lecteurs français et francophones. C'était mon premier roman. Pas, c'était pas mon premier, mais c'était le premier roman que j'ai écrit où j'ai intégré des éléments de science-fiction, de spéculation. Et qui était là, qui soutenait cette histoire d'une famille en fuite. Et c'était quelque chose qui se trouvait dans d'autres livres comme Wayward Pines ou Dark Matter.
Vous avez toujours une tendresse pour ce livre-là aujourd'hui?
I do.
Oui.
When I had the chance to quand j'ai eu l'occasion
de le sortir à nouveau, je l'ai relu. Et en le lisant, donc quoi, 14 ans plus tard, c'était très étrange parce que là, en fait, je revenais dans le temps et j'ai rencontré la version précédente de Blake. Bon, il y avait des choses avec l'histoire que j'aurais pu changer, mais je ne l'ai pas fait. Donc là, j'ai juste repassé légèrement dessus sur le texte, mais je voulais garder ma première intention quand j'ai écrit le livre. Et j'étais étonné.
Alors, vous êtes identifié aujourd'hui comme un auteur qui travaille sur la peur technologique ou encore sur la peur sociétale. Est-ce que vous vous définissez aujourd'hui comme un auteur de thriller, de science-fiction, d'horreur? Quel genre vous convient le mieux?
Pour moi-même, je ne pense pas à un genre particulier, en fait.
I connect to stories.
Là, c'est des histoires qui m'intéressent.
Romance stories.
Les histoires romantiques, des histoires d'horreur, des fantaisies. Ce n'est pas uniquement.
Type of writer.
Je ne suis pas uniquement un type d'auteur, mais pour les lecteurs, pour les vendeurs, pour les éditeurs, et c'est utile de mettre des gens dans une case pour vendre des livres. Mais bon, pour moi-même, je trouve une histoire qui me plaît, et ces histoires, en l'occurrence, ont différents éléments, parce que ça montre un petit peu les livres que j'ai lus quand j'étais enfant. C'était donc tout genre, en fait.
Et justement, cette étiquette d'auteur de genre, parfois en France, on entend que c'est un espace de liberté narrative. Est-ce que c'est le même espace de liberté aux États-Unis?
That's a great question.
C'est une très bonne question.
I think that you do.
Je pense que oui.
I've been very fortunate
et j'ai eu beaucoup de chance parce que aux États-Unis, j'ai creusé ma niche en quelque sorte. Donc, au fond, mes livres sont des thrillers à cause du rythme. Mais ce qui est par-dessus, les couches supérieures, en fait, il y a des aspects de science-fiction, mais aussi de l'horreur, parce que les premiers romans que j'ai écrits, et ce que j'ai aimé tout d'abord, c'était l'horreur. Et donc, quand on regarde le camembert de mes romans, il n'y a pas toujours l'horreur, mais il y a toujours un élément là-dedans. Et c'est ça que j'aime le plus.
Alors, dans Run, tout commence par un basculement. une aurore dans le ciel et puis l'effondrement instantané de l'empathie chez une partie de la population. Pourquoi ce choix scientifique, presque neurologique, comme déclencheur de l'action ?
À l'époque où j'ai commencé à penser à Run, j'avais vu un documentaire sur le génocide au Rwanda au début des années 90. Et j'étais frappé par plusieurs choses, notamment le fait que les tueurs, en fait, avaient pris contrôle des stations de radio et ils donnaient les noms des personnes à tuer sur la radio, quoi. Et donc, les tueurs étaient envoyés par la radio. Et c'était tellement horrifiant, c'était tellement viscéral. Et en plus, la réponse des États-Unis n'était pas là. Et puis, le monde en général, en fait, ils ont regardé le génocide se passer. Et je me disais, si on prend une version de ce qui se passait au Rwanda et on le place aux États-Unis, pour que ce soit quelque chose auquel on peut s'identifier aux États-Unis, donc pour ceux qui lisent le livre.
Vous parlez de la radio, mais très vite, le lecteur dans Run découvre une liste lue à la radio avec les noms et les adresses des gens à abattre. Moi, je l'ai lu comme une critique directe de la manière dont un État peut déléguer la violence à ses citoyens. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ça que vous avez voulu dénoncer dans ce début de roman ?
Absolument. C'était étrange parce que quand j'écrivais le livre, en fait, les États-Unis n'étaient pas dans le même endroit que maintenant. Mais il y avait ce sentiment de manque d'empathie. Et c'est facile pour tout un groupe ou un sous-groupe d'être démonisé et être défini comme étant sous-humain.
It was really scary to me that when that happens, it
et
makes it
peur.
Incredibly easy for
et là, à ce moment-là, c'est très facile
to be inflicted upon
pouvoir des atrocités arriver donc par des gens qui sont normaux, qui sont des gens bons.
Et c'est un des moments d'ailleurs très glaçants du roman qui apparaît au tout début, mais cette liste lue.
Si on admet que dans les films d'horreur en général, on est sujet à ce scepticisme, on a des doutes. Surtout ce qui peut arriver, et notamment dans les films d'horreur épidémique, on a des doutes sur les objets. Il faut peut-être pas les toucher parce qu'ils sont peut-être contagieux. On a des doutes par rapport aux autres. Mais la chose à laquelle on peut se rattacher, c'est la confiance en soi. Au moins, je sais qui je suis et je vais essayer de sauver cette personne que je suis. Mais si on s'aperçoit que, à cause du virus notamment, on peut se transformer et ne plus être soi-même, eh bien, on n'a plus rien à quoi se raccrocher.
On vient d'entendre là Hugo Clémaux, maître de conférence en esthétique et en philosophie de l'art. C'était dans Les Chemins de la philosophie sur France Culture en 2014. Ce doute dont il parle, il est au cœur de ce roman. Est-ce que c'est un ressort que vous aimez actionner pour tendre l'attention de votre lecteur ?
Tout à fait. Donc, quelque chose qui m'a fait aimer les livres quand j'étais jeune, c'est l'idée qu'on peut s'asseoir, on peut ouvrir la première page et on peut être complètement emporté. Je ne me souviens plus du nom du livre, mais à une époque, j'avais peut-être 10 ans, 11 ans, et j'ai lu un livre, je me suis assis et j'ai passé la journée à lire. J'étais transporté, j'étais totalement en immersion totale. Et je voulais être quelqu'un qui racontait des histoires depuis tout petit. Et je savais que si j'allais devenir romancier, il fallait avoir ce même sentiment chez le public, chez le lecteur, qu'ils oublient le temps, qu'ils oublient leurs responsabilités, qu'ils oublient de faire la cuisine, qu'ils oublient d'emmener les enfants à l'école, qu'ils veillent trop tard la nuit. Parce que quand on lit une histoire comme ça, ça reste beaucoup plus longtemps chez le lecteur.
Alors la structure de Run repose sur la fuite continue, la fatigue physique, l'usure psychique d'une famille. Est-ce que vous avez puisé dans la littérature post-apocalyptique ou dans le roman de route américain classique, Kerouac ou Steinbeck, pour écrire ce livre-là ? Qui se passe quand même, on est à l'intérieur de la voiture de cette famille du début presque à la fin.
It's interesting. On the Road was
donc, on the
something
road,
that was
Kerouac,
in my mind.
C'était quelque chose qui,
working on
que j'avais en tête.
Another book, which I loved, had come out a few
livre,
years
un autre
before.
Livre que j'adorais,
by Cormac McCarthy,
de Cormac The Road. McCarthy, The Road, La Route.
I liked the idea of,
et j'aimais bien l'idée
of a real-time story where
d'un temps, d'une histoire en temps réel. Il y a
years
on
or days or months that you are living with these characters
futur,
moment to moment. And in fact, the book is structured
moment,
that way. There aren't
avec
chapters per se. Each
il n'y a pas de chapitre,
one day
il y a des
in
sections,
the life
chaque
of this
section,
family as they are racing across the American West, trying to get into the safety of Southern Canada.
Pour aller au Canada du Sud, pour trouver la sécurité.
Run pose aussi une question éthique. Hein, la question, on pourrait la formuler comme ça. Jusqu'où peut-on aller pour protéger les siens? Est-ce que vous cherchez, Blake Crouch, à mettre le lecteur en position de dire « Bah oui, moi, je ferai pareil pour sauver mes enfants, je serai prêt à aller jusque-là » ou au contraire, vous essayez de créer un malaise moral?
My son at the time was 3 years old.
This
was,
and Run
was the first book
Run,
I wrote
after que j'ai écrit
the birth of my son.
Après la naissance
and
de mon fils,
parent,
et quand on devient parent,
at the world and
on regarde
the dangers,
le monde, on regarde les dangers
that are out in front of
du
you
monde qui
way.
Sont là, et
and
on les regarde d'une façon différente.
Instinctual drive
et
to protect
cette poussée, cet
family,
instinct
children,
de protéger sa famille, ses enfants, c'est quelque chose que j'ignorais avant
so
la naissance de mon enfant, de mon fils.
The first book I,
et donc, ce n'est pas étonnant que le premier livre que j'ai écrit après sa naissance, c'était un père qui est prêt à faire n'importe
me,
quoi pour sauver ses enfants.
Questions I was wrestling with as I wrote the book was
que j'avais quand j'écrivais l'histoire, c'est jusqu'où irais-je pour protéger mes enfants? Est-ce que je tuerais quelqu'un? Est-ce que je laisserais quelqu'un sur le bord de la route? Parce que si je les laissais entrer dans la voiture, ça pourrait mettre en danger ma famille. Ce sont des questions qui dérangent, effectivement.
Et vous avez réussi à y répondre à ces questions en écrivant ce livre? Vous, l'écrivain, et non pas à travers votre héros.
Oh, I think so. I think as I was writing, I felt very strongly.
En écrivant, je pensais surtout vers la fin de l'histoire, vers la fin du livre. Si quelqu'un menace sa famille, tout le reste, on laisse de côté, quoi. Donc là, on fait tout pour les sauver.
Alors votre héros, Jack, il n'est ni militaire, ni flic, ni survivaliste, il est prof. Pourquoi avoir refusé finalement le héros typique du thriller américain et qu'est-ce que ça change dans l'arc narratif d'avoir un héros presque banal, un prof?
I had read a lot of
j'avais lu beaucoup de
novelists in America.
Il y a beaucoup de romanciers. Il y a quelqu'un qui s'appelle David Morrell qui a écrit Rambo entre autres. Mais il avait ces protagonistes qui étaient des prototypes en fait, qui étaient typiques en fait, qui étaient là, qui survivaient dans l'Ouest et tout. Et je me disais que ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui n'a aucune compétence pour survivre en fait quand il y a un massacre. Et je me suis dit qu'un prof de philo serait quelqu'un qui aurait beaucoup de mal. Là, il a acheté tout simplement du matériel de camping. Oui, et là, donc ce matériel de camping, et c'est toujours sous plastique en fait, c'est toujours stocké dans son sac, et ils sont là pour aller confronter le monde sauvage. Mais je voulais avoir quelque chose le plus impossible possible. Que possible pour la famille.
Mais donc c'est la révélation en fait du héros dans chacun d'entre nous qui vous intéressait dans ce livre, parce qu'en effet on rencontre Jack, voilà, c'est quelqu'un d'assez banal avec sa femme et ses deux enfants et son garage rempli d'éléments de camping encore sous plastique, mais il devient finalement un héros. C'était ça qui vous intéressait, cette révélation?
For sure, there's a moment in the book,
il y a un moment dans le livre
where,
tard dans le livre où la famille en fait meurt de faim. Et ils ont traversé cette montagne dangereuse et Jack a trouvé de l'eau pour eux. Et il pense à sa propre croissance et comment il est différent maintenant par rapport il y a 20 jours quand ils ont commencé à lire des noms à la radio. Et c'était important pour moi d'avoir cet instant pour le personnage. Parce qu'il y a là, il y a cette masculinité toxique, comme on dit aux États-Unis, cette idée de violence innée chez l'homme. Et c'est vrai d'ailleurs qu'on le voit, mais il y a le revers aussi. Il y a l'opposé, et lui, en fait, il trouve de la force dans sa capacité à protéger sa femme et ses enfants.
Alors Jack, donc il est accompagné de sa femme, Dee, et de leurs deux enfants, Naomi et Cole. Naomi aura un rôle important, on y reviendra peut-être à la fin de cette émission. Mais à cette famille, je trouve que vous leur donnez une autonomie, qu'elle soit tactique ou morale. En fait, on évite totalement le poids mort qu'on peut avoir dans certains romans du genre post-apocalyptique où la famille est... en fait, on traîne cette famille-là, on la traîne pas. Chacun a un rôle défini. Vous avez envisagé vos personnages comme indépendants dans cette famille-là, comme pouvant agir de leur propre endroit chacun.
Yes, I mean they didn't emerge as fully formed characters in my first draft.
Dans la première version du livre, ils étaient moins bien formés qu'après, parce qu'il faut plusieurs versions pour pouvoir trouver des vrais personnages. C'est comme quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on a une idée de cette personne, mais on ne connaît pas les nuances de leur personnalité, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui leur font peur. Donc il me faut peut-être trois versions avant de connaître le personnage. Et à ce moment-là, je peux repartir et les construire pour faire des gens qui respirent, qui vivent, qui ressemblent à quelqu'un que je connais. Et c'était important pour moi de donner à chaque membre de cette famille, d'avoir leur rôle au sein de la famille. Dee, la femme, et les médecins. Et c'est très utile, bien sûr, quand il y a l'apocalypse. Et Jack, il a le moins de choses à proposer, en fait. Lui, c'est un penseur. Et c'est bien en temps de paix, mais en temps de guerre et en temps de chaos, ça n'aide pas à empêcher les monstres d'avancer. Et j'ai aimé explorer les enfants aussi. C'est en fait un road trip pour une famille, mais le pire des road trips. Il y a Cole, le jeune garçon, comme beaucoup de gamins, quand il y a un road trip, parce que le pays est énorme. Donc parfois, les gens, ils passent des heures sur la route, des journées sur la route, et ils disent tout le temps, est-ce qu'on est arrivé? Je ne veux pas être ici, je suis fatigué. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir des idées comme ça dans cette situation folle.
Le couple Jack et Dee est en crise conjugale juste avant que l'effondrement arrive, juste avant cet apocalypse. Pourquoi c'était important pour vous que l'effondrement global de la société se superpose à une faillite intime?
I thought that if you started out and this was a very happy family,
si c'était une famille heureuse, ça va, c'est bon. Ce serait bien d'être derrière eux pour la survie, pour qu'ils survivent. Mais si on voyait ce mariage en train de s'effondrer en même temps que le monde, là, ce serait amplifié. Ce qu'ils vivent, c'est amplifié. Et c'est ce que j'essaie de faire avec tous mes personnages, c'est-à-dire de trouver les pires choses qui pourraient leur arriver. Alors, qu'est-ce qui pourrait être pire que d'être face à l'apocalypse avec sa famille? Le pire, c'est en fait, on va divorcer la semaine prochaine. Mais là, quand je commençais à écrire le livre, je me disais, est-ce qu'il y a une possibilité que cette expérience, s'ils survivent, est-ce qu'ils vont devenir plus forts?
Vous ne le savez pas au début de l'écriture?
I did not.
Non, je ne savais pas.
C'est en écrivant que les personnages se dévoilent aussi?
Yeah. When I started writing,
quand j'ai commencé à écrire, ils n'allaient pas divorcer. C'était une famille heureuse, tout allait bien, et j'ai écrit les 30 premières pages, et j'aimais les forces externes qui les influençaient, j'aimais bien cette action, mais je me disais que la famille en fait, étaient ennuyeuses. Parce que la plupart des familles, en fait, ne sont pas parfaites. Hein. On a tous des problèmes, hein, des plus, des moins. Et je voulais que cette famille soit réelle.
Vous avez dit écrire le pire, je crois que c'est ce qu'on va entendre hein, pour, ici pour le public réuni à Nantes au Festival des Utopales. Et pour les auditrices et auditeurs de France Culture, je vous propose d'écouter un extrait de votre texte lu par Oriane Delacroix.
Jack eut l'impression d'encaisser un coup de poing à l'épaule. Puis il se retrouva à scruter les nuages qui reflétaient les ultimes rayons du soleil. Les gens s'effondraient dans le charnier tout autour de lui. Et partout, des giclées de sang à l'odeur métallique, la mer des lurines envahissant tout, incarnation sensorielle de la terreur la plus abjecte, le sang chaud l'aspergeait, dégoulinant sur son visage, des membres se tortillaient juste à côté de lui. Puis, la fusillade s'arrêta, et il y eut un moment de silence, bientôt submergé par les gémissements d'une centaine de personnes agonisantes. Si Jack avait cru à l'enfer, il n'aurait pu imaginer pire que ce cœur de souffrance. Des grognements, des geignements, des pleurs, des cris, des personnes mourant bruyamment, d'autres en silence, certaines maudissant leurs meurtriers, d'autres les suppliant de les épargner ou de les achever, d'autres encore leur demandant simplement pourquoi.
Alors, puisque nous avons la chance aujourd'hui de ne pas être en studio, mais d'être à Nantes, je vois quelqu'un dans le public qui voudrait peut-être s'exprimer. Vous êtes Camille ?
Oui, tout à fait.
Et vous voulez poser une question à Blake Crouch ? Alors, je vous en prie, allez-y.
Avec plaisir. Bonjour France Culture, bonjour Blake Crouch. Alors, j'avais une question concernant votre process d'écriture. Vos romans reposent sur des concepts scientifiques forts, notamment les différentes réalités parallèles dans Dark Matter, la modification génétique. Et je voulais savoir si vous aviez ces concepts en tête et vous construisiez votre roman autour, ou si c'était un process complètement différent.
Merci beaucoup Camille pour votre question. Blake Crouch.
Bonjour, that's a great question.
Bonjour, c'est une excellente question. Je l'écris comme vous le dites là. Je commence avec une grande idée. Quand j'ai écrit Dark Matter, je savais que je voulais écrire quelque chose sur une réalité alternative. Je ne savais pas quoi au-delà de là, mais je savais que je voulais le faire. Et après, je fais une sorte de brainstorming sur quels sont les personnages que je veux mettre au cœur de ce récit. Qu'est-ce que je veux dire thématiquement pendant le processus de l'écriture? Pour Wayward Pines, j'ai commencé de la même manière. Et je savais que je voulais écrire quelque chose sur une ville qui fait peur. J'étais inspiré par Twin Peaks quand j'étais petit. Et je me disais que ce serait bien d'avoir des personnages dans une ville qui ne sont pas bizarres parce qu'ils sont dans un film de David Lynch, mais ils se comportent bizarrement parce qu'il y a une idée quelconque, mais je ne connaissais pas l'idée encore. Upgrade, c'était un thriller de l'ADN. Quand j'ai commencé à voir quelque chose avec cette idée, et j'ai mis thriller ADN, point d'interrogation. Donc je commence large, et puis après je viens vers le centre.
Alors vous montrez dans ce livre-là, hein, dans Run, une société qui se désintègre plus vite moralement que matériellement. En tout cas, ça a été mon impression de lecture. C'est-à-dire que les routes existent encore, les camions roulent, les armes, bien sûr, circulent. Mais la solidarité, elle, a totalement disparu. Est-ce que pour vous, Blake Crouch, l'infrastructure survit plus longtemps que l'éthique ?
For sure.
Absolument.
We're experiencing that right now in America.
Actuellement aux États-Unis.
What are the things with Run?
Run, c'est pas vraiment un roman post-apocalyptique. Et ce qui m'a excité quand j'écrivais, c'est que c'est un roman apocalyptique. Je voulais écrire ce qui se passe. On commence le roman 5 minutes avant qu'on éteigne les lumières, pas 20 ans après. Et on est sur les ruines de la civilisation. Je voulais voir la civilisation qui s'écroule en temps réel avec les personnages.
C'était pas la même histoire.
C'était différent d'écrire sur l'apocalypse qui arrive maintenant, plutôt que de traverser les ossements d'un apocalypse.
Et vos tueurs hein, dans Run, ce ne sont pas des monstres en fait, ce sont des voisins, des anciens collègues qui ont donc perdu toute empathie, tout rapport à l'autre. Est-ce que pour vous, ce livre, c'est une métaphore du glissement actuel ? Vous évoquiez l'Amérique d'aujourd'hui alors que votre livre a été écrit dans l'Amérique d'avant. Est-ce que c'est une métaphore du glissement vers la déshumanisation de l'autre que vous pouvez peut-être vivre aux États-Unis aujourd'hui ?
For sure.
I
think the world has always had an empathy problem.
Et il y a toujours un problème d'empathie.
Not specific to any country.
Et c'est pas spécifique aux États-Unis, c'est global.
The monsters in quotes in Run aren't zombies or people with the virus.
Ce ne sont pas des gens qui sont infectés par des virus. Je voulais que la cause soit très abstraite. Ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait une croyance différente. Et c'est ça le cœur de toutes les atrocités. Les tueurs chez Run voient ce phénomène. Et ils voient, et pour eux, ils ont vu la lumière. Et ceux qui n'ont pas vu ce phénomène n'ont pas vu la lumière. Et c'est aussi simple que ça. Ça peut paraître simpliste, mais quand on regarde les guerres de religion, par exemple, c'est très simple aussi. C'est un moyen de contrôle et de la peur.
Voir la lumière, ça voulait dire aussi, vous évoquez peut-être un fanatisme religieux là-dedans. Est-ce qu'il y avait ça sous-tendu dans ce texte-là ?
It's never specified.
Non, c'est jamais dit.
C'est pas un fanatisme religieux particulier. Mais bien sûr, en l'écrivant, c'était quelque chose qui est une sorte de métaphore pour toute forme de fanatisme, que ce soit religieux, que ce soit du véganisme, peu importe.
Le roman montre aussi à quelle vitesse la société américaine se reconfigure en milice locale armée, très structurée, avec du matériel lourd. Est-ce que c'est une dystopie, Black Crouch, ou est-ce que vous écrivez quand même quelque chose de l'ordre de la crainte pour les États-Unis ?
Is it a dystopia?
Est-ce qu'il s'agit d'une dystopie ?
Technically, yes,
techniquement, oui. Mais je crois que c'est plutôt... donc quelque chose pour nous prévenir. Là, j'ai grandi dans le sud-est des États-Unis, où on a eu une guerre civile. Le sud aux États-Unis, c'est unique parce que c'est la seule partie des États-Unis qui a perdu une guerre. C'est la seule partie qui est entrée en guerre avec une autre partie des États-Unis. Et donc, il y a des champs de bataille partout. En Europe, tout est très vieux. Il y a beaucoup d'histoires et tout ça. Et aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est qu'on, là, on a quelques centaines d'années d'histoire pour notre civilisation, beaucoup plus loin. Bien sûr, pour les personnes indigènes, autochtones. Mais chez nous, il y avait toujours des champs de bataille, il y avait toujours un symbole, il y avait toujours une statue. Et donc, là, les restes de cette histoire où un peuple était en guerre avec lui-même. Et pendant longtemps, j'appelais Run la guerre civile 2.
Alors je vous propose d'écouter l'écrivain américain Philippe Meyer. Il était sur France Culture en 2017 et il fait, dans cette archive, une différence entre l'appréciation de la violence en Europe et aux États-Unis.
I think Americans, we have a very strong and sort of positive relationship.
Les Américains ont une relation forte, voire positive avec la violence. Les Européens et les Français, non.
The reason that we got our country is essentially founded on violence.
La raison de la fondation des États-Unis, c'est la violence. 350 ans de guerre contre les Amérindiens. Donc, à un niveau inconscient, on sait bien que sans cette violence envers les indigènes, les États-Unis n'existeraient pas. Si on regarde le XXe siècle, deux guerres mondiales qui ont décimé le reste de la planète ont donné de la puissance aux États-Unis. Du reste, c'est la Seconde Guerre mondiale qui a fait des États-Unis le pays le plus puissant au monde. La violence est donc inhérente au caractère américain. C'est pourquoi nous sommes très à l'aise avec les armes à feu. Ce n'est pas le cas des Européens. C'est pourquoi notre cinéma est bien plus violent que le cinéma européen. C'est la raison pour laquelle nos enfants sont exposés à la violence, les jeux vidéo, le cinéma américain, bien plus et bien plus tôt que les enfants européens. On est contre la sexualité, mais il n'y a pas de censure envers la violence. La censure porte sur la sexualité, mais les enfants, eux, peuvent très bien voir de la violence. Il n'y a pas de problème.
Est-ce que vous êtes d'accord, Blake Crouch, avec ce que vient de dire Philippe Meyer sur cette facilité d'accès à la violence aux États-Unis ?
Oh, absolutely. I think
ça fait.
I think it comes partly from how quickly America went from.
C'est parce que les États-Unis sont passés très rapidement d'un monde sauvage vide à un pays très puissant avec plein d'infrastructures. Et on ne peut pas faire ça en quelques décennies sans avoir une quantité énorme de violence. On a commencé avec une guerre, avec l'Angleterre, la guerre contre nous-mêmes. On a toujours cherché cette identité. Et la violence en fait partie, c'est clair. Et si on regarde les divertissements très américains, une forme de divertissement, c'est le western, et c'est fondé sur la violence. Donc le drifter qui arrive en ville, qui va nettoyer la ville, et puis la justice qui vient de tout ça, c'est dans l'ADN de notre pays. Et ça vient de là, notre obsession du deuxième amendement, de vouloir avoir des armes à feu, de vouloir se protéger. Et bien sûr, sous-jacent, il y a la peur. Là, ça ne fait pas très longtemps qu'on dit comme ça aux États-Unis.
Est-ce qu'il y a quand même une jouissance en tant qu'écrivain d'écrire la violence ? Peut-être que quand on a entendu l'extrait là, qui a été lu par Oriane Delacroix, on l'entend. Dans Run, on a des corps démembrés, la voiture roule dessus, les enfants doivent regarder ou ne doivent pas, mais en tout cas voient ces morts par milliers sur les routes à travers leurs vitres criblées de balles. J'ai l'impression quand même qu'en tant qu'écrivain, il y a un plaisir particulier à décrire ces scènes-là.
Yes. What's interesting about
ce qui est intéressant,
we go back. One of the first things I remember writing when I was probably 12 or 13 years old,
petit, j'avais peut-être 12 13 ans, j'ai écrit une nouvelle
particularly violent scene.
Et qui avait une scène très violente.
There's something about when you write
violence. Et quand on écrit la violence, on a la possibilité d'être très intense en termes de prose. Là, on aspire le lecteur vers quelque chose de très inconfortable. Et le lecteur est traumatisé. Et pour faire ça, il faut utiliser les muscles qu'on a en tant qu'auteur, qu'on a en tant qu'écrivain. Et c'est pour ça que les climax, en fait, c'est la fin de la plupart des films. C'est tellement grisant. Et en même temps, c'est horrible. Mais la violence est importante, enfin, je pense. Dans Run, et c'est très important de le montrer précisément et sans en avoir peur, parce que c'est une histoire brutale.
Vous parlez d'intensité dans le texte. L'intensité, elle passe aussi par une attention particulière aux odeurs, par exemple. Vous cherchez à convoquer tous les sens de vos lecteurs. Est-ce que c'est un réflexe conscient au moment d'écrire, justement, d'écrire un roman sensoriel ?
That's an interesting way of describing it. I think that as when I write, I've always been, I would say, like kind of a, not even a cinematic writer, more of an experiential writer.
Je suis pas toujours cinématographique. Je suis plutôt pour l'expérience. Je ne sais pas comment c'est pour d'autres auteurs, d'autres écrivains. Moi, j'imagine que je suis dans la scène, je suis un personnage, et je me dis qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'ai comme goût, quelles sont les odeurs. Quelles sont les sensations, qu'est-ce que je ressens. Et mon objectif en tant qu'écrivain, c'est de mettre le lecteur à la place dans la peau du personnage, mais sans trop décrire. Il faut trouver la tension entre être et donc décrire bien, mais il faut laisser assez de place à l'esprit du lecteur pour remplir les blancs.
Un autre thème qui me semble très important dans ce roman, hein, le livre commence et finit sur l'idée de mémoire, documenter les fausses, ne pas effacer. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les États-Unis sont capables de regarder en face leur violence interne, on en a parlé, hein, de toutes ces guerres, qu'elles soient politiques, raciales ou sociales. Est-ce que le fait de commencer et terminer un roman en parlant d'archives, comment on documente la violence, était un acte presque militant chez vous ?
It wasn't at the time I was writing it.
À l'époque où j'écrivais, non. Je n'ai jamais écrit un livre pour faire autre chose que de divertir le lecteur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de thèmes qui arrivent, qui sont bien, mais je ne veux pas prêcher. Comme j'ai dit au début, je veux voler du temps aux gens. Pour qu'ils aient une pause quoi, de la vie dans la vie normale. Mais j'ai fait beaucoup de recherches dans les génocides quand j'écrivais. Et quelque chose de très intéressant, c'était le groupe de personnes qui étudie les effets a posteriori, les impacts qui vont dans les cimetières, dans les charniers, et ils font une cartographie, ils creusent, ils trouvent les ossements. Et ce que je voulais dire, c'est que l'héritage de cette violence continue pendant des décennies et des siècles après l'acte lui-même. Donc, l'idée, c'est d'aller voir les os et de voir ce qui s'est passé. Et c'est très important de faire ça, sinon ça va être oublié et ça va se répéter à nouveau.
Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Blake Crouch. Merci à Bernard Reeves pour la traduction. Et merci au public des Utopiales. Je rappelle que votre roman Run est désormais disponible en français aux éditions Gail Master dans une traduction de Patrick Imbert. Et pour se quitter, une nouveauté, mais on reste en Amérique, hein. C'est Adam Green, le chanteur et compositeur new-yorkais qui revient pour notre plus grand plaisir. On écoute son dernier trick, Falling Around.
Dancing in a homemade accident.
Dancing in a homemade accident.
Standing inside.
Standing inside.
These dented lifetimes. But if you want chop off heads with me, hold hands with the unseen, falling around,
falling around,
dancing in a homemade accident,
dancing in a homemade accident,
and all the women are obsessed with me,
and all the women are obsessed with me,
and my stop sign soup. But if you want to chop off heads with me, hold hands with the unseen.
Les Midi de Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe pour la préparation de cette émission. Eyesight Wendoy, Boris Pinault, Jules Barbier, Lise Ripoche, Zora Vigné et Margot Chaboche. Cette émission est réalisée par Laurence Malonda avec, à la technique, Thomas Robin, Virginie Lorda, Julien Calvas, Léo Prangère, Sandrine Bréchaud et à Paris, Jérémy Kaufmann.
Falling along,
falling along,
sinking in the shadow of my speech,
sinking in the shadow of my speech.
You don't want to judge me, but...